Laudetur Jesus Christus.
À la une de ce journal, le reconfinement de 850 000 madrilènes priés de rester chez eux à partir d'aujourd'hui à cause de l'augmentation des cas de Covid. Des mesures restrictives bien moins contraignantes que celles de mars-avril, mais la colère gronde malgré tout. Reportage dès le début de ce journal. Les États-Unis annoncent le retour des sanctions onusiennes contre l'Iran après plusieurs échecs cet été devant les Nations Unies. Washington fait donc cavalier seul pour la Chine, la Russie et l'Union Européenne. Cette initiative est sans droit. Nous parlerons également de la Pologne dans ce journal où la coalition de droite au pouvoir menace d'exploser en cause un projet de loi sur les droits des animaux. Explication dans quelques instants. Et puis la Thaïlande a vécu un autre week-end de manifestations hier. Des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Bangkok pour réclamer la démission du Premier ministre et puis une réforme de la monarchie, une institution intouchable.
Radio Vatican, le journal, Manuela Figi.
Bonjour à tous. Près d'un million d'Espagnols invités de nouveau à rester à la maison. La mesure concerne depuis ce matin les quartiers sud de Madrid les plus défavorisés. Ce n'est pas un confinement aussi strict qu'au printemps, mais les habitants concernés ne peuvent plus sortir de leur quartier. Le reportage à Madrid de Luis Marsans.
Les Madrilènes du sud de la capitale peuvent sortir de chez eux, mais ils n'ont pas le droit de quitter leur quartier, sauf pour aller travailler ou en cas de force majeure. Ici, les habitants de Vallecas, un quartier pauvre du sud de Madrid, sont en colère. Momo, vendeur de téléphones portables, observe depuis sa boutique le contrôle de police installé à la frontière de la zone reconfinée.
J'habitais ici, j'ai travaillé ici, je n'ai pas droit à passer dans notre quartier. C'est pareil que quand je suis petit, ma mère m'a fermé dans la maison. Je ne suis pas libre.
Pour l'instant, la police ne sanctionne pas, elle informe, mais dans 48 heures, elle mettra des amendes. Ce reconfinement partiel est vécu ici comme une injustice. Inès, étudiante, elle n'hésite pas à parler de ségrégation.
On respecte les règles comme partout à Madrid et en Espagne, mais le problème est que les quartiers du sud de Madrid sont clairement discriminés et il n'y a pas de vraies mesures pour essayer de freiner l'épidémie. Par exemple, on n'a pas assez de médecins, assez de pédiatres, et par contre, nous sommes confinés.
Dans les quartiers sud, on recense jusqu'à 1200 cas positifs pour 100 000 habitants. C'est un record en Europe, mais beaucoup doutent de l'efficacité de ce reconfinement, car les gens continueront à se déplacer pour aller travailler en centre-ville, et chaque matin, le métro et les trains de banlieue sont bondés. Madrid, Luis Marsans pour Radio Vatican.
De nouvelles restrictions entrent en vigueur également au Québec et concernent les rassemblements. La limite passe de 250 à 50 personnes. Et puis assouplissement en revanche en Nouvelle-Zélande et en Inde où le Taj Mahal a rouvert ses portes aux visiteurs aujourd'hui. Coup d'envoi ce lundi de la 75e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Chaque année, New York est le théâtre d'un ballet diplomatique. À cette occasion, de nombreux chefs d'État font toujours le déplacement. Leurs rencontres et entretiens dans les couloirs du Palais de Verre sont scrutés à la loupe. Rien de tel. Cette année, la pandémie oblige à tout repenser en mode virtuel. Les traditionnels discours à la tribune ont été préenregistrés et plusieurs mini-sommets auront lieu en vidéoconférence. Je vous rappelle que le pape François adressera lui aussi un message aux participants. Parmi les dossiers brûlants qui figureront au menu de cette 75e session, l'Iran, d'autant plus que les États-Unis ont annoncé unilatéralement le rétablissement des sanctions onusiennes contre ce pays, sanctions qui avaient été levées au nom de l'accord historique conclu en 2015. Washington annonce donc les rétablir, et cela à 6 semaines de la présidentielle, en invoquant une pirouette juridique dénoncée par la majeure partie de la communauté internationale. Louis Chloé.
Il y a environ un mois, l'administration Trump recevait une gifle au Conseil de sécurité, incapable de forcer ses partenaires à prolonger un embargo sur les armes contre Téhéran. À ce moment-là, Mike Pompeo, le secrétaire d'État, s'en était pris violemment à Paris, à Londres et à Berlin, les accusant d'avoir choisi de s'aligner avec les ayatollahs. La proclamation unilatérale de Washington aujourd'hui semble donc faire figure de représailles. Les États-Unis, qui s'étaient pourtant retirés de l'accord sur le nucléaire, en invoquant en effet l'un des mécanismes, le snapback, pour rétablir les sanctions de l'ONU contre l'Iran, mais sans l'appui des Russes, des Chinois ou des Européens. D'après ces derniers, toute action prise sur le fondement d'une telle procédure sont sans effet en droit, sauf que les États-Unis, certes totalement isolés, ont les moyens de faire plier la communauté internationale. L'administration menace de mettre en place des sanctions secondaires pour punir tout pays ou toute entité qui violerait les restrictions contre Téhéran. Autant dire que l'Assemblée l'Assemblée générale de l'ONU, qui s'ouvre, même virtuelle, s'annonce tendue. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Toujours pas de gouvernement au Liban alors que les partis politiques s'étaient engagés début septembre à former un cabinet de ministres efficaces et compétents dans les deux semaines, mais les négociations patinent. Le principal obstacle venant de partis chiites, Hezbollah et Amal, qui réclament le portefeuille des finances. Aujourd'hui, le Premier ministre désigné Mustapha Adib appelle toutes les forces en présence à la coopération pour le sauvetage du pays et de sa population. La justice bulgare a condamné par contumace deux Libanais accusés d'être impliqués dans un attentat anti-israélien en 2012 attribué au Hezbollah. C'était dans la station balnéaire de Bourgas, sur les rives de la mer Noire. Une bombe déposée dans un bus de touristes avait explosé, tuant 7 personnes, toutes israéliennes, condamnées à perpétuité. Et les deux suspects demeurent introuvables. Le gouvernement polonais va-t-il tomber ? La question se pose depuis quelques jours à Varsovie. Le ministre de la Justice, qui appartient au petit parti Pologne Solidaire, s'oppose au parti conservateur majoritaire Droit et Justice. En rivalité depuis longtemps avec le leader de Droit et Justice, Jarosław Kaczyński, c'est sur un projet de loi sur les droits des animaux, Delphine Allaire, que le ministre a rouvert les hostilités.
Oui, Manuela, le ministre de la Justice polonais qui appartient à l'un des deux petits partis avec lesquels Droit et Justice gouverne. Ces deux petits partis alliés sont également de droite, l'un modéré, l'autre plus radical. Et deux de ces figures, dont le ministre de la Justice en personne, ont ainsi ouvertement refusé de suivre le gouvernement conservateur sur un projet de loi sur les droits des animaux. Alors, soulevant la colère des campagnes, ce texte prévoit l'interdiction d'élever des visons pour leur fourrure, une industrie importante en Pologne. Et ce texte arrête aussi les exportations de viande halal et cachère. Il a bien été voté grâce au soutien de l'opposition libérale. Maintenant, plusieurs options se présentent. Celle d'un gouvernement minoritaire de Droit et Justice. Sans alliés, le parti ne dispose en effet que de 197 sièges sur 460 au Parlement. Ou bien des élections anticipées qui rebattraient toutes les cartes. Le calendrier électoral prévoit, lui, les prochaines législatives à 2023. En attendant, les conservateurs fragilisés en interne devraient procéder à un remaniement ministériel, réduisant de moitié les postes contrôlés par les deux petits partis de sa coalition.
Merci beaucoup Delphine. La principale opposante au président bélarusse Alexandre Loukachenko était à Bruxelles ce matin. Svetlana Tikhanovskaya implore le soutien de l'Union européenne, je cite, au nom de la démocratie et des droits de l'homme. En réalité, l'UE a déjà préparé un projet de sanctions contre une quarantaine de personnes du régime de Minsk, mais Chypre refuse d'y souscrire tant que des mesures ne seront pas adoptées contre la Turquie en représailles à ses activités en Méditerranée orientale. Week-end de manifestations en Thaïlande. Entre eux, 50 000 et 80 000 personnes, dont beaucoup d'étudiants, ont défilé dans les rues de Bangkok pour demander la démission du Premier ministre, la tenue d'élections et des réformes institutionnelles, car certains n'hésitent pas à remettre en cause la royauté, sujet pourtant tabou et très clivant dans le pays. À Bangkok, Carole Izou.
Dès samedi après-midi, les manifestants font irruption dans un endroit symbolique, le campus de l'université de Thammasat, là où sont nés la plupart des grands mouvements sociaux thaïlandais du siècle dernier. Après en avoir pris le contrôle, ils y passent la nuit alors que sur scène, orateurs et chanteurs se succèdent. Leurs demandes n'ont pas changé depuis des mois. Départ du gouvernement, nouvelles élections, nouvelle constitution qui offrirait moins de pouvoir à l'armée et réforme majeure du système d'éducation et de la monarchie. Hier matin, la pose symbolique d'une plaque commémorative qui rappelait que la Thaïlande appartient à son peuple et pas à son roi a suscité l'enthousiasme de la foule.
Avec cette plaque, nous exprimons notre espoir que notre pays devienne une véritable démocratie et que la monarchie s'exerce enfin dans le cadre de la Constitution.
La critique de la toute-puissante monarchie est toujours un tabou qui tombe sous le coup de la sévère loi de lèse-majesté jusqu'à 15 ans de prison pour toute critique de la couronne. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de conservateurs expriment leur colère face à des étudiants qui semblent, disent-ils, haïr leur propre pays. Ce matin, la plaque avait déjà mystérieusement disparu.
Carole Izou à Bangkok. Au Vatican, le pape a reçu ce matin une quarantaine d'enfants autistes venus d'Autriche, du centre Sonnenschein, qui signifie « splendeur du soleil ». Votre maison ressemble à une magnifique prairie de fleurs au soleil et les fleurs de cette maison, c'est vous, leur a lancé le Saint-Père au cours de cette rencontre touchante qui s'est déroulée dans la salle Clémentine du Vatican. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité vaticane et internationale revient ce soir à 18h avec Marie Duhamel. Très belle journée à toutes et à tous.